Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Sébastien a fait en 2005 le choix du changement. Porté par l'envie d'ailleurs, il s'est installé au Vietnam où il a trouvé sa place et fondé sa famille. Originairement issu du monde de la finance, Sébastien a fait le choix de tout quitter. Il a créé, avec sa femme vietnamienne, une agence de voyage. Je l'ai rencontré à Hanoï après avoir réalisé un reportage photo dans les montagnes du Nord, accompagné par l'un de ses guides. Dans votre émission Regarde ailleurs, je vous emmène à la rencontre de Sébastien.
La première visite que j'ai pu faire effectivement au Vietnam, avant de venir m'y installer définitivement il y a une dizaine d'années maintenant, c'est il y a 20 ans, en 1993, lorsque je suis venu visiter un membre de ma famille qui était installé ici, quelqu'un d'assez proche. Donc je suis venu pour la première fois ici durant près de 2 mois. Donc j'étais un peu plus jeune, j'avais les cheveux un peu moins blancs. J'ai beaucoup aimé le pays. Je revenais assez régulièrement, à peu près tous les 2 ans en moyenne, et j'ai décidé de tout lâcher d'une certaine manière en 2005. C'était un projet que j'avais déjà à cœur depuis quelques années pour venir définitivement m'installer ici, non pas pour créer mon agence, mais tout d'abord pour trouver un emploi, parce qu'avant j'étais dans une activité qui était totalement différente. Que je travaillais dans le milieu bancaire, donc rien à voir. Et je suis arrivé au Vietnam et j'ai commencé à travailler pour une ONG dans le domaine de la santé animale. Donc j'ai travaillé durant 3 années. Ensuite, il y a eu des rencontres. Ces rencontres sont devenues notamment ma femme, Nguyet, qui est aussi la directrice de notre agence, qui, elle, travaillait déjà dans le monde du tourisme lorsque je l'ai rencontrée. Et il y a une petite dizaine d'années, donc en 2008, on a décidé de créer notre activité, de créer notre agence, donc qui se nomme Motaiba. On a commencé à travailler bien évidemment sur le Vietnam et on a étendu nos activités ensuite sur le Laos, sur le Cambodge et puis enfin sur la Birmanie.
Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un métier salarié dans une banque à cette envie de voyager, à tout quitter? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ce choix? C'est quand même un choix de vie assez important.
Alors tout d'abord, oui, c'est vrai. Disons que j'ai toujours été attiré par ce continent, par l'Asie du Sud-Est. Donc c'est quelque chose que j'avais à cœur déjà depuis très longtemps en raison de ma première visite pour découvrir justement ces pays voisins aussi, que Laos, le Cambodge. Donc c'est tous ces pays indéchinois il y a une vingtaine d'années. L'arrivée dans le milieu bancaire s'est faite aussi d'une manière par hasard. Donc ça a été la fin de mes études à l'époque. J'étais à Londres, j'étais diplômé de mon MBA et donc j'ai eu cette opportunité professionnelle de travailler dans une banque bien connue en France. Et puisqu'ils ne pouvaient pas me proposer ce que je souhaitais, c'est-à-dire un contrat expatrié ou pseudo-expatrié pour venir m'installer dans l'un de ces pays, eh ben j'ai décidé de prendre mes clics et mes claques, comme on dit, et de donner ma démission et de venir chercher par moi-même ce qui me tenait à cœur, c'est-à-dire vivre une vraie expérience de vie dans ces pays. Et depuis, je suis jamais reparti.
Cette envie d'ailleurs et réussir à se poser, se stabiliser, donc c'est possible, quoi. Et de plus en plus, enfin, en voyage sur les routes, je me rends compte qu'on rencontre beaucoup de Français qui ont fait ce choix-là de tout quitter pour s'installer ailleurs. Toi, pourquoi est-ce que tu ne retournerais pas en France? Qu'est-ce qui fait que tu te sens bien ici au Vietnam? Qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant par rapport à ce choix?
Oh, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, comme j'expliquais, c'était une vraie décision et un vrai choix de vie de quitter la France et de venir m'installer notamment au Vietnam, puis que j'affectionne tout particulièrement. Je me suis donné en tout cas tous les moyens, toutes les motivations, toutes les réseaux que j'ai pu créer au fil de l'eau, au fil de ces années. Donc, puisque les choses se sont confirmées et continuent à avancer, je n'ai pas de raison a priori de vouloir rentrer en France. Ensuite, je me sens bien. C'est un pays dans lequel je vis, j'apprends, je découvre, je redécouvre. Et puis après 10 ans, j'ai ma famille ici. Ma femme est vietnamienne. On a une petite fille de 9 mois maintenant. Donc par conséquent, les choses ont évolué aussi pour ma vie personnelle et pour ma vie de famille. Donc par conséquent, ma vie est ici. Ensuite, on peut jamais savoir comment les choses vont évoluer dans les prochaines années ou dans les 5 ou 10 prochaines années. Mais aujourd'hui, il est certain que ma vie est ici. Il n'y a aucune raison de vouloir quitter le Vietnam et de continuer en tout cas à travailler sur nos activités et sur notre activité de voyage qu'on affectionne le plus pour développer également effectivement nos circuits, nos programmes et l'ensemble de nos produits.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Voilà, 10 ans maintenant que tu habites ici, tu as fondé une famille, tu as une petite fille qui a 9 mois, tu nous disais, tu t'es mariée avec une femme vietnamienne. Comment est-ce que tu l'as rencontrée il y a 10 ans? Comment ça s'est passé? Est-ce qu'elle était déjà dans le tourisme, donc tu faisais partie aussi des voyageurs à l'époque, ou raconte-moi.
Pas du tout, ça a été une rencontre, une circonstance qui s'est faite. À l'époque, ma future femme... travaillait dans une petite épicerie en plus de son activité de tourisme puisqu'elle était employée. La rencontre s'est faite dans cette épicerie d'une manière très très naturelle. On a eu l'occasion de se revoir, de se rencontrer ici à Hanoï, bien sûr pas très loin du lieu où on est. Enfin, cette épicerie n'existe plus aujourd'hui. On n'a jamais vraiment perdu contact, bien au contraire, et puis les choses ont mis du temps, beaucoup de temps, pour apprendre à se connaître, à se découvrir, et puis les choses de la vie ont fait la suite.
Et donc toi, à ce moment-là, tu habitais ici, tu bossais pour l'ONG en lien avec les animaux, c'est ça?
À l'époque, je travaillais pour cette ONG, oui, tout à fait.
Donc tu étais déjà fixe ici à Hanoï?
J'étais déjà fixe ici à Hanoï. En réalité, si mes souvenirs sont bons, je suis arrivé à Hanoï en mois de septembre, et on s'est rencontrés, on s'est vus pour la première fois en fin octobre, début novembre, donc c'est-à-dire très peu de temps après que je sois arrivé au Vietnam. Et puis le mariage s'est fait quelques années plus tard, puisqu'on s'est marié définitivement l'année dernière, très précisément. Donc on a pris beaucoup de temps avant de se connaître. Mais ça fait déjà près de 8 ans qu'on est ensemble.
Et donc, plus récemment, vous avez créé, je ne sais plus en quelle année, donc cette agence de voyage, Motoiba. Comment est-ce qu'on en vient à créer une agence de voyage? Pourquoi est-ce que tu t'as choisi ce secteur, cette branche, pour pouvoir créer ton modèle économique?
C'est très simple, pour plusieurs raisons. La première, pour être très honnête, il était certain que je ne pouvais pas travailler à long terme pour cette ONG. Donc il arrive un moment où il faut essayer de pérenniser son poste lorsqu'on veut rester dans un pays dans lequel on a décidé de s'installer. Donc ça a été beaucoup de discussions, beaucoup de rencontres. Et nous avons décidé avec ma femme de s'associer et de créer notre activité. Ensuite, c'était une activité qui me plaisait tout particulièrement, puisque on peut travailler sur plein de thématiques, puisqu'on travaille essentiellement à la carte, et c'est un vrai travail de chef de projet aussi d'une certaine manière, puisque à la fois il faut faire les prospections, aller sur le terrain, découvrir de nouveaux spots, en tout cas on espère pour qu'ils soient un peu moins touristiques que les incontournables lorsqu'on nous le demande. Donc c'est de côté, on va dire, sympa, on essaye de joindre l'utile un peu à l'agréable, comme on dit, pour pouvoir voyager à l'intérieur du pays, découvrir des nouveaux villages, découvrir des nouvelles personnes, la rencontre humaine, pour pouvoir ensuite développer et travailler sur notre activité. Donc ça, c'est la première chose. Après, il y a l'accueil, évidemment, de nos voyageurs. Je pense être quelqu'un qui a toujours été très, très, très proche des gens. J'aime le contact humain, j'aime le contact avec l'individu. Donc par conséquent, tous ces éléments combinés ont été pour moi, pour nous, quelque chose de presque naturel de travailler sur ce projet.
Et donc pour construire un circuit, on va peut-être prendre un des circuits de l'agence, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc c'est toi qui prends ta moto ou ta voiture et qui va à la découverte de nouveaux villages pour essayer de sortir un peu des sentiers battus? Comment est-ce qu'on va créer un itinéraire?
Alors, pas toujours. Oui et non. Alors, en règle générale, sur les circuits qui sont hors des sentiers battus, et notamment sur dans les hauts plateaux du Vietnam et sur le nord du pays, oui, c'est moi. Et je le fais pas en voiture. Je fais tout en moto. J'essaye de partir une fois par an en moto dans des régions qui sont moins exploitées, qui sont un peu plus reculées. Mais bon, les choses se développent très très vite aussi ici. Donc il faut toujours être à la page d'une certaine manière, si je peux m'exprimer ainsi. Donc je pars 2 semaines, 3 semaines, 1 mois en moto. Parfois je fais des passages frontaliers également avec le Laos. On l'a fait très dernièrement en début d'année. En novembre de l'année dernière, pardon, avec ma femme qui était enceinte d'ailleurs de notre petite fille. Donc on est parti 3 semaines en moto sur le passage frontalier par Naméo pour rejoindre le Laos. Donc voilà, donc effectivement c'est des circuits, c'est des itinéraires, c'est des spots en tout cas qu'on essaye de découvrir, que moi j'essaye de découvrir en priorité en moto. Ensuite, j'ai pas systématiquement le temps dans mon agenda parce que c'est beaucoup de travail aussi évidemment, hein, parce qu'on travaille sur d'autres pays. On a nos équipes, on a nos guides qui sont là aussi pour venir en soutien, en support sur nos itinéraires et sur les spots effectivement qu'on peut découvrir et qu'on peut commercialiser ensuite et proposer à nos voyageurs.
Ok, donc concrètement, quand tu passes dans un village que tu trouves plutôt sympa, l'idée c'est de trouver une famille qui est prête à accueillir tes voyageurs. Donc voilà, tu vas chercher, parler aux gens, expliquer ton projet et voir qui est prêt à les accueillir.
Voilà, tout à fait, c'est cela. Donc ça c'est la première partie, c'est le premier contact. Mais jamais on travaille avec des grands groupes de tour opérateurs parce que on considère que déjà on est une petite agence familiale. On se considère comme vraiment des artisans voyagistes. Donc pour nous, il est hors de question d'exploiter ces villageois, ces villages, en tout cas avec des cars et des groupes de touristes qui pourraient dénaturaliser un petit peu l'environnement et les paysages. Donc c'est la première prise de contact. Ensuite, les choses sont pas si simples. On n'en voit pas du jour au lendemain des voyageurs chez des villageois dans une...
Sans douche, sans toilette, sans forcément l'infrastructure qui est prête à les accueillir.
Il y a cela aussi, mais pas forcément, puisqu'il y a certains voyageurs aussi qui recherchent vraiment l'authenticité et qui veulent véritablement être à vivre cette proximité auprès de certaines ethnies minoritaires ou de certains villageois. Non, je pensais surtout au fait, c'est les autorisations. On peut pas systématiquement dormir ou commercialiser une zone dans laquelle on travaille sans avoir des autorisations auprès des comités populaires ou de certains départements des autorités vietnamiennes. Donc ça aussi, on travaille sur ces autorisations derrière. Parfois, ça prend du temps.
m'intéresser un peu aux voyageurs et aux demandes des voyageurs. Comment tu les perçois? Comment les gens voyagent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu parlais de mot authenticité. Ça, c'est quelque chose qui revient beaucoup. On veut tous un voyage authentique, là où il n'y a pas de touristes. Ça me fait souvent sourire d'ailleurs, parce que finalement, on est des touristes. Donc, mais voilà, qu'est-ce que les gens recherchent?
Écoute, Alex, c'est... Comment te répondre? C'est assez paradoxal. À la fois, certains voyageurs recherchent, justement, tu parlais d'authenticité, de zones hors des sentiers battus, qui sont très peu exploitées par le tourisme, pour pouvoir vraiment vivre une expérience unique.
Donc, qui continue finalement, ou qui contribue à dénaturer les cultures, les paysages dont tu parlais avant.
Tout est relatif, encore une fois, parce que comme je le disais tout à l'heure, nous, on travaille essentiellement sur mesure et tous nos circuits sont privés. Donc, je veux dire, si on a une clientèle qui souhaite effectivement découvrir certains endroits, certaines zones dans lesquelles on peut opérer et qui sont très peu touristiques, on va jamais les mélanger avec nos autres groupes. Pour plusieurs fois, on nous l'a demandé. Plusieurs fois, on nous a sollicité pour pouvoir organiser des circuits de 15, 20, 25 personnes pour pouvoir à la fois réduire les coûts, bien évidemment. Lorsqu'on voyage à deux, c'est toujours un peu plus coûteux que lorsqu'on voyage à 10, c'est normal. C'est quelque chose qu'on peut faire, mais tous nos circuits sont privés et nous mélangeons jamais nos groupes, déjà pour cette raison. Ensuite, si on a une famille de 3 ou 4 couples qui souhaitent voyager effectivement sur ces zones, puisqu'on parle d'authenticité et on parle justement notamment de ces villages, on le fait, bien évidemment, mais on essaie systématiquement de garder un bon équilibre, en tout cas sur le nombre de nos voyageurs, pardon, et puis sur sa fréquence. Aujourd'hui, ce que recherchent les voyageurs, c'était ça aussi ta question. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette part d'authenticité, de proximité avec certains villageois et en tout cas des minorités ethniques. Mais ce que je veux dire, c'est que avant tout, aujourd'hui, ce que recherche le voyageur, c'est vraiment un travail sur mesure. Je me suis rendu compte aujourd'hui, par rapport à il y a encore quelques années, il y a encore 5-6 ans, les gens souhaitent véritablement qu'il y ait cette proximité dans la création de leur itinéraire, dans la mise en place de leur programme, que ce soit à la fois sur le choix des hôtels, sur les prestations, les services qu'on peut leur proposer. Donc je pense que la différence aujourd'hui, elle est un peu là. On travaille vraiment sur du mesure et elle est un peu plus demandée aussi aujourd'hui, je pense.
Donc c'est une grosse préparation avant l'arrivée des voyageurs, quoi, qui se passe par Internet, par téléphone ou par Skype, où tu es vraiment là pour les accompagner dans la préparation de leur voyage.
Tout à fait, tu as complètement raison. C'est une grosse préparation, c'est beaucoup d'échanges de courriels, c'est parfois des échanges téléphoniques. Ici, il arrive parfois qu'il y ait 10, 15, 20 échanges de courriels. Et malheureusement, il arrive que le projet ne se fait pas pour diverses raisons. Soit parce que les voyageurs ont décidé finalement de mettre un peu en suspens leur voyage, ou soit ils ont peut-être mal évalué leur budget. Mais il est certain qu'on passe du temps sur les itinéraires à mettre en place, à créer pour eux. Donc lorsque les choses ne se font pas, il n'y a pas de déception, parce que ça fait partie de notre travail aussi. Mais d'une certaine manière, ça nous permet aussi de constituer notre base de données et de pouvoir créer des programmes combinés sur certains itinéraires. Donc c'est le côté aussi intéressant du voyage.
Depuis quelques années, on entend parler du tourisme solidaire ou du tourisme responsable. Qu'est-ce que c'est que pour toi?
Alors, on a développé différents projets en termes de tourisme solidaire et de tourisme responsable dans le cadre d'un équilibre environnemental. Tout à l'heure, on parlait encore de villageois, de respect de l'économie locale, effectivement avec les locaux. Avec des amis, on a travaillé sur un projet, notamment pendant la construction d'un lodge qu'on a mis en place il y a un peu plus de 3 ans ici, qui se situe au cœur de la réserve de Poulong. Donc, il y a eu un gros travail qui a été fait par tous les acteurs qui ont contribué au projet au cœur de la réserve de Poulong, qui se situe à 5 heures de route d'Hanoï à peu près d'ici. Donc voilà, donc c'est un lodge qu'on a mis en place, qu'on a créé avec une famille thaï, avec des matériaux locaux, totalement écolo, en travaillant avec les acteurs locaux et les autorités sur place. Donc c'est l'un des projets sur lequel on travaille. Sur lequel on essaye de développer, hein, on est opérationnel, hein, on travaille déjà sur ce produit. On est aussi avec d'autres amis à développer un projet qui est opérationnel depuis quelques temps maintenant, qui est dans la province d'Azang, et plus précisément à Méovac, une auberge qu'on travaille avec un ami qui s'appelle Alain. Donc voilà, donc il y a plusieurs idées qui se font effectivement sur la partie en tout cas synergique avec les acteurs locaux qu'on souhaiterait développer davantage effectivement, tout en gardant un bon équilibre effectivement entre l'afflux de nos voyageurs et l'environnement local.
Donc si je comprends bien, c'est permettre aux locaux de bénéficier de l'économie du tourisme grâce à ce genre de projet.
Oui, mais pas seulement, puisqu'ils font partie du projet. C'est-à-dire que même si nous, on a investi, on va dire, pour pouvoir construire effectivement ce lodge et ses produits, les bénéfices ne sont pas reversés entièrement à notre activité et à notre agence. Les bénéfices sont répartis aussi auprès de la famille qui a passé du temps, qui a construit la maison, qui accueille nos voyageurs et qui travaille aussi à plein temps sur ce projet. Donc par conséquent, ils vivent aussi de ce projet.
Sébastien, tu es basé à Hanoï, tu as créé avec ta femme Motoyuba, donc avec des voyages essentiellement sur le Vietnam, et tu as ouvert aussi à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Comment ça s'est fait? Comment est-ce qu'on en vient à s'étendre? Parce que tu as peut-être le problème de la langue, là tu peux le faire assez facilement, parce que tu es dans cette interculturalité avec ta femme qui peut peut-être faire le lien entre, tu parlais du côté administratif ici au Vietnam, mais comment est-ce qu'on développe un produit ou un voyage au Cambodge, en Birmanie ou ailleurs?
Alors bien sûr, c'est un peu plus compliqué, hein, lorsqu'on n'est pas basé physiquement dans le pays. Ensuite, comment les choses se sont faites? Elles se sont faites tout naturellement. C'était des premières demandes en nous de nos premiers voyageurs, pas de nos premiers voyageurs, mais en tout cas de voyageurs, en tout cas à la suite d'une certaine activité, où on nous demandait tout simplement, voilà, donc on vit en Vietnam, mais on souhaiterait partir également au Cambodge. Pouvez-vous nous aider? Donc, et puis c'était le Laos, et puis c'était la Birmanie. qui sont ouverts déjà depuis quelques temps au tourisme. Mais bon, la Birmanie, c'est peut-être un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font aussi là-bas. Et puis la Birmanie est une destination qui est beaucoup plus coûteuse en termes d'organisation. Attention, je parle pas, je ne parle pas lorsqu'on veut voyager seul, en sac à dos. La Birmanie, c'est totalement faisable aussi. C'est plutôt ce que je suis en train de dire. Je parle en termes d'organisation du voyage, en termes de coûts. Donc voilà, donc les choses se sont faites. Très naturellement. Ça a été d'abord des demandes sur ces pays voisins. Et donc au début, on refusait puisqu'on ne travaillait pas sur ces destinations. Et puis le Vietnam a commencé à prendre un peu plus d'ampleur, en tout cas sur nos opérations. Et puis on s'est dit, pourquoi ne pas nous développer? Je connaissais déjà un petit peu ces pays. J'avais des réseaux, j'avais des acteurs locaux, j'avais des contacts. Donc ma femme ne gère pas directement, effectivement, ou moi-même, ces destinations. On centralise les demandes effectivement sur le Vietnam parce que notre siège est ici. On a nos équipes locales, effectivement, nos équipes birmanes, Laos et Khmer qui accueillent nos voyageurs, bien évidemment.
Le Vietnam, parle-moi un peu du Vietnam. Donne-moi envie, ou donne-nous envie, ou présente-nous ce pays avec ton regard.
Écoute, c'est une question qui est un peu difficile parce qu'il y aura certainement beaucoup de choses à dire. Le Vietnam est un pays qui est très grand. On a le nord avec toute la partie basse et haute montagne, avec toute la partie colorée, ethnique, minoritaire, qui est propice notamment à la photographie, puisque tu es expert dans le domaine de la photographie, donc tu connais bien les choses, hein. De ce côté-là, j'ai pas beaucoup à t'apprendre, bien au contraire, t'as certainement beaucoup plus à m'apprendre, même si nous organisons aussi des voyages photos. Il y a le centre, effectivement, du Vietnam, avec des villes classées par le patrimoine de l'UNESCO aussi. Il y a le delta, il y a le sud du Vietnam, le delta, il y a les îles. Il y a la plus grande île du Vietnam qui est Phu Quoc, on a Cam Dao, on a l'île de la Baleine, l'île de Cham pour faire de la plongée, et on a les hauts plateaux. On a les hauts plateaux aussi pour faire du trek, pour découvrir des endroits qui sont aussi somptueux et qui sont très beaux et qui sont un peu moins exploités par le tourisme aussi d'ailleurs. Contrairement à des régions du nord du pays dans lesquelles on opère aussi. Donc le circuit très classique qui se fait par l'ensemble des agences, c'est souvent un Vietnam du nord au sud de 2-3 semaines avec effectivement les incontournables. Donc je pense que pour un premier voyage au Vietnam, pour découvrir effectivement le Vietnam, bon, il faut aller à la baie d'Along. C'est venir au Vietnam sans aller à la baie d'Along au moins une fois, c'est, comme j'ai toujours l'habitude de dire, c'est venir à Paris sans aller voir la Tour Eiffel. Donc je pense qu'il faut le faire. Après, il y a sur un deuxième voyage, il faut zoomer. Il faut zoomer et aller dans des zones qui sont propices à des découvertes et à des rencontres qui sont fabuleuses ici dans ce pays.
Ce qui est intéressant aussi, quand on regarde une carte du Vietnam, c'est un pays en fait très très long, tout en longueur, avec une sacrée diversité. Quand tu parlais du nord, du sud, ça n'a rien à voir.
Oui, tout à fait. C'est ce que je disais à l'instant. C'est un pays qui est très vaste. Donc bon, on n'est pas sur une dimension géographique aussi grande que la Birmanie, bien évidemment. Mais parce que la Birmanie est très grand. Mais effectivement, le Vietnam est un pays qui est bien plus grand que le Cambodge et que le Laos. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au Vietnam, c'est certain. Beaucoup, beaucoup.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Mais écoutez, notre lien est très simple, hein, puisque Motaiba, c'est une déclinaison de Mot Hai Ba, donc de 1, 2, 3 en vietnamien. Donc on a bien évidemment changer l'orthographe pour créer un mot, pour avoir cette consonance aussi à l'oreille, en tout cas agréable, en tout cas je le souhaite. Notre lien est très simple à retenir, hein, www.moteba.com.
Le site est en version francophone et anglophone, donc je vous invite à aller le visiter où vous aurez l'occasion de voir une partie des circuits qu'on peut proposer. Donc bien évidemment, tous nos circuits ne sont pas sur notre site, tous nos produits ne sont pas sur notre site. Il y a déjà beaucoup, beaucoup d'informations en tout cas sur le Vietnam et sur ses pays voisins. Donc je vous invite tous à aller, si vous le souhaitez, visiter notre site.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.